Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Djoliba TV News. Bienvenue dans votre émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Djoliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service citoyen et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, ce soir, nous avons comme thème la transition à l'épreuve de la demande sociale entre le report de la rentrée des classes pour le 4 novembre, la vie chère, les inondations, la suspension des marchés à bétail. Et c'est vraiment là, et véritablement la demande sociale. Donc c'est la transition aujourd'hui à l'épreuve de la demande sociale et puis à d'autres questions d'intérêt national que nous allons aborder avec notre invité, un jeune politique brillant, très engagé, qui a le courage de ses convictions, le courage de ses idées. Et il ne fait pas dans la langue de bois très souvent, j'espère, hein, que ce soir aussi il répondra à l'appel et fera parler à son cœur comme il a l'habitude de le faire. Djibril Brima Diallo, dit Empereur, est notre invité. Empereur, bonsoir.
Bonsoir, M. Attaher.
Merci de répondre à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
J'ai Djibril Brima Diallo, dit Empereur. Vous êtes vice-président de l'Alliance Nouvelle Espérance Djigiakoura, de l'Alliance Espérance Djigiakoura de Ousseyne Amion Guindo, c'est bien ça?
Exactement.
Merci de répondre encore une fois à notre invitation, Djibril Diallo. On va rapidement rentrer dans le vif du sujet, le report de la rentrée des classes. Quelle analyse et qu'est-ce que ça vous fait, ce report-là?
Bon, ce report, je dirais que ça tombe en un moment, je dirais, propice pour certains et c'est vraiment triste pour d'autres. Parce que quand c'est dans ce genre de situation, et c'est tout que l'administration étant là pour déjà prévenir ce genre de situation. Et quand on dit la rentrée, d'habitude c'est mois d'octobre. Mais si chaque fois qu'il y a des reports, on est en général avisé. Et moi, je pense que c'est dans la précipitation et le retard, je peux le dire, pour le report qui a causé trop de tort à la société. Quand je dis la société, je parle de tout le monde. Quand vous prenez le cas des acteurs principaux, qui sont d'abord les anciens, nous savons que c'est sur tout le territoire malien que les anciens doivent se rendre pour aller exercer. Donc, si c'est à quelques heures seulement, qu'on informe ces gens-là qu'il faut encore un mois pour se préparer. Ça trouve qu'il y a certains qui sont déjà sur place, d'autres sont déjà sur la route. Donc, d'une manière, ça cause trop de tort, sur ce point. Et l'autre point, parce qu'actuellement, l'éducation malienne, quand on en parle, on a tendance souvent à oublier qu'au niveau du secondaire et même au niveau du primaire, il y a les écoles privées et il y a les écoles étatiques. Les cas, par exemple, des anciens des écoles privées, et il dépend de ces aires-là. Donc, à chaque report, ça cause trop de problèmes. Et étant donné qu'ils viennent de passer des vacances, des calvaires, parce que suite à des problèmes de subvention des écoles privées, et concernant les secondaires généraux, l'enseignement secondaire général, et puis technique et professionnelle. Okay. Donc, s'ils avaient l'espoir déjà qu'ils allaient reprendre, les promoteurs allaient faire beaucoup de jeux, au moins pour les donner, au moins psychologiquement, qu'ils soient prêts pour
rentrer. Oui, donc finalement, ce pour vous, c'est une bonne chose compte tenu et de la situation économique difficile du pays?
C'est tout le contraire. Okay. C'est tout le contraire. Je suis en train d'énumérer les problèmes parce que non seulement au niveau des anciens, c'est ce que je suis en train d'expliquer, les anciens publics ainsi que les anciens privés. Donc en dehors de ça, maintenant, il y a même les élèves. Les élèves, chaque fois qu'on voit qu'il y a des reports, il n'y a pas de rattrapage après. Et l'école en général, ça commence en octobre et se termine en mois de juin. Vous imaginez? Donc les examens doivent se passer. Or, le programme, quand on vient maintenant alors qu'on vient de reporter d'un mois, et vu le programme scolaire, comment par exemple un élève qui est en terminale, s'il ne parvient pas à terminer son programme et si les sujets maintenant sortent sur le troisième trimestre en général, ça peut causer beaucoup de problèmes aux élèves aussi qui sont en dehors des anciens. Je peux dire que les seules personnes à qui j'ai entendu un peu de joie, c'est les parents d'élèves. Parce qu'ils voient actuellement l'éducation comme un fardeau, au lieu de voir que c'est une chance. Okay. Vous voyez, un fardeau, pourquoi? Parce que nous savons actuellement que l'éducation, ça a un prix à Bamako. Ça a un prix, je peux dire, partout. Parce que les fournitures scolaires, ainsi de suite, il y a tous ces problèmes. Donc, les reports maintenant brusques, là, je peux dire que...
Ça a soulagé beaucoup de...
Bon, des parents d'élèves, ça a tout soulagé les parents d'élèves qui sont dans les déficits. Oui. Mais, gouverner, c'est prévoir. Okay. Vraiment, j'ai même lu un communiqué des syndicats libres, des écoles, les syndicats libres, des anciens des écoles privées. Okay. Et pratiquement, ce que je viens de soulever, ça cause ces problèmes-là. Okay. Maintenant, si on parle de catastrophe, l'état de catastrophe naturelle qui a causé cela, mais ce truc-là a été déjà décidé par les autorités depuis longtemps. Okay. Pourquoi n'est pas anticipé? D'accord. Et maintenant, c'est à la dernière minute
qu'on informe les gens. Mais là, est-ce qu'on peut dire que, puisque c'est l'État pour motif, a dit que c'est en raison de
l'état de catastrophe
nationale, oui. Dû aux inondations. Voilà, il y a eu beaucoup d'inondations dans le pays, à Bamako et à l'intérieur. Mais les gens qui sont nombreux, ces sinistrés-là, de ces inondations, qui se trouvent dans des écoles publiques.
Oui.
Voilà. Est-ce que, à ce niveau, si rien n'est fait, parce que jusque-là, on se demande, est-ce qu'il y a eu un suivi pour ces gens-là? Est-ce qu'ils ont eu des abris? Et sinon, est-ce que même la date du 4 novembre, pour vous, vous paraît réaliste?
À terre, en collant, je peux le dire, le report à cette situation, je pense que c'est une volte-face. Parce que ce genre de cas, ce n'est pas une première au Mali. Okay. Chaque fois qu'il y a eu des pluies diluviennes, ce genre de cas arrive. Mais je pense que juste en mois de mars, il y a eu un rapport de synthèse de l'état, des états généraux sur l'éducation. Je pense que ce genre de truc, je peux dire des mois de mars en septembre, c'est maximum, c'est à peu près 6 mois. Donc, pour une autorité qui est vouée à l'éducation, moi, je pense que ce genre de cas devrait être soulagé pour une première fois. Surtout que le présent, même dans ses discours, s'accentue beaucoup sur le rôle de la jeunesse. On sait... Quand on parle de la jeunesse, le rôle de l'éducation pour une jeunesse. Et quand l'État est concentré sur la jeunesse, la jeunesse aussi doit être concentrée, vraiment focalisée sur l'éducation. Donc je pense qu'à travers le rapport de synthèse, on devrait anticiper. C'est pourquoi j'ai dit non seulement les reports, mais les causes qui sont liées aux reports, vraiment ne sont pas appropriées pour quelqu'un qui sait qu'il est dans un état solide.
Ok. Mais est-ce qu'on n'a pas deux problèmes? Parce que les sinistrés des inondations n'ont pas encore eu de solution. Est-ce que, à ce niveau-là, est-ce que la rentrée peut être effective? Si, parce que ce sont aussi des Maliens, il faudrait qu'on trouve un lieu pour les reloger.
Effectivement, à terre, c'est à cause de ça même, j'ai dit que si la nation était vraiment focalisée sur l'éducation, on n'aurait pas dû faire cela. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a d'autres abris pour les sinistrés que les écoles uniquement. Je pense que nous avons des logements sociaux inhabités. Nous avons aussi des campements, des foyers de jeunes, un peu partout à travers le Mali. Et surtout dans un pays où on dit un peuple, un but, une foi. Nous pensons que même Koulouba devrait être un abri pour eux. Même s'il s'agit de les loger au niveau de la cité ministérielle, il fallait le faire. Nous avons des palais de culture, nous avons les CICB. On a su loger les cadres qui, par exemple, pouvaient même faire des conférences visuelles. Mais si on laisse maintenant les sinistrés, maintenant pour les loger uniquement que dans les écoles, ça veut dire que réellement il y a deux poids, deux mesures. Ça veut dire qu'il y a deux peuples. Ça veut dire que ces sinistrés-là ne sont pas considérés comme par exemple les conseillers de la
transition. Oui, on va suivre cette actualité de près, mais cette rentrée, si elle devait avoir lieu, ou même si elle aura lieu, elle va coïncider avec une cherté de la vie. Une cherté de la vie. Et aujourd'hui, à Bamako, à l'intérieur du pays, hein, les denrées de première nécessité, les prix flambent, et l'argent se fait rare, et le panier de la ménagère qui se vide de plus en plus. Et face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire?
Effectivement, c'est pourquoi
j'ai un peu lié, hein, pour moi.
Oui, oui, j'en ai un peu touché. Oui. J'ai dit que les parents d'élèves ont aimé ces reports-là à cause de la vie chère. Okay. Vous comprenez? C'est pourquoi. Et il y a certains même qui sont déjà là à penser, donc en s'adressant au promoteur, donc ces mois-là, on ne va pas le payer. Vous imaginez un peu, ça joue aussi sur les promoteurs. Parce que et c'est toute une année. Les écoles privées, par exemple, c'est toute une année qu'ils ne prennent pas les bâtiments. Par exemple, ceux qui sont logés dans les bâtiments, ils sont obligés de payer par an. Et ce n'est pas par trimestre. Donc, ce genre de comportement, si vous voyez... c'est l'État qui doit prévenir tout cela. Par exemple, on aurait dû casser les prix, par exemple, des fournitures scolaires. On aurait anticipé, par exemple, au niveau des écoles publiques. J'ai entendu, bon, en général, il y a toujours des réserves au niveau des écoles publiques, des lycées surtout. Et comme l'orientation n'est pas encore faite, donc c'est la masse en général au niveau de l'enseignement secondaire. Et c'est tout général, c'est les nouveaux arrivés qui sont les dixièmes. Il n'y a pas eu d'orientation, vous comprenez? Donc, les anciens onzièmes et terminales, en général, le reste des fournitures, par exemple, ils pouvaient commencer avec ça. Mais est-ce qu'à ce niveau aussi, les choses étaient vraiment normales? C'est-à-dire, est-ce que les institutions, par exemple, étatique à ce niveau, avait les matériels ni essentiels pour vraiment faire la rentrée.
D'accord, oui, les inondations.
Au niveau des inondations, oui. je viens de le dire, ce n'est pas une première à Bamako. On ne devrait pas accrocher le report à cela, vraiment. Je pense qu'il est temps qu'on respecte un peu l'éducation. Parce que quand on respecte l'éducation, on ne va pas dire qu'à cause des sans-abri. Parce que moi, je pense que les sinistrés, aujourd'hui, certes, mais il y a eu des déplacés. Je n'ai pas entendu qu'il y ait eu des reports parce qu'il y a eu des déplacements de nos concitoyens. Ouais. Donc, il peut, à cause des sinistrés aussi, on ne peut pas nuire à l'avenir de tout un État. Et on devrait anticiper. Même s'il faut, loger ces sinistrés-là, comme je l'ai dit, il y a trop de bâtiments public. Okay. Il y a trop de bâtiments, je dirais, au service même de que ce soit la localité respective, que ce soit maintenant au niveau des mairies, au niveau des sous-préfectures. Il y a tous ces lieux-là qui appartiennent à tous les Maliens. Okay. Donc, c'est eux qui devraient être, d'une manière, les abris pour les sinistrés, au lieu de jouer sur l'avenir de nos enfants.
D'accord. Parlons toujours de cette... la demande sociale, la suspension des marchés à bétail. Et si c'est une suspension, on peut dire, pour le moment provisoire, et à ce niveau aussi, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait?
Bon, effectivement, d'abord, j'ai vu la suspension sur les réseaux, et après, j'ai eu l'opportunité d'écouter un acteur principal, qui est M. Banyama Koulibaly. Je pense qu'il est le président de la fédération bétail et viande, quoi. Okay. Donc, j'ai eu à l'écouter. Et c'est à travers ça, j'ai su qu'ils ont eu une rencontre avec le ministre en question qui les a dit que ce n'est pas une suspension, mais que c'est une délocalisation. Ils allaient être délocalisés. Donc, en attendant, maintenant, il n'a pas, d'une manière, rentré dans le jeu, dans le fond même. Ouais. Quand même, ils sont sur place.
D'accord.
Donc, à ce niveau, il en a énuméré réellement l'impact que ça va jouer au cas où on oserait faire déplacer ces acteurs-là. Et je peux dire que c'est à travers ces propos aussi que j'ai su qu'il n'y a plus de Bambara, de Dogon dans les Grabels qui les peuvent. Lui-même étant le président, il est Banyama Koulibaly. Vous imaginez un peu. Et je vois que j'ai un peu discuté sur le sujet avec le président Ousseynou Amen Guino. Il m'en a dit tellement de son entourage qui travaille là-bas aussi. Et je sais que lui, il est plus Dogon que Peul. Donc c'est pour vous dire que les Peuls ne sont pas trop nombreux là-bas. Pourtant, la cause de ce déplacement-là est due maintenant aux événements qui se sont produits les attaques.
Les attaques du 17. Le 17 septembre, hein,
effectivement.
Oui, à l'aéroport et au niveau de la gendarmerie.
L'école de la gendarmerie.
L'école de la gendarmerie nationale. Oui, parlons maintenant politique. Ça aussi, c'est politique, ça a une dimension politique, mais le discours du Premier ministre, discours du ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Mega, à la tribune des Nations Unies. Il est de retour, il a même été accueilli par. Des partisans voilà, qui saluent son discours et qui trouvent que son discours est un discours héroïque. Et vous, quelle est votre lecture de ce discours du ministre colonel Abdoulaye Mega?
Concernant le discours, je dirais que c'est un peu du déjà vu, comme c'est du président lors de l'anniversaire de la commémoration du 22 septembre. Mais il y a eu de nouveau cette année, au lieu de dribblage, on a entendu au moins cette année un tant pis, et qui, quand nous regardons un peu tant pis, on approche un peu à une langue locale de chez nos voisins, c'est en ajoutant un IERI, ça va causer problème. Donc un peu, je ne peux pas dire que j'ai désapprouvé le discours, mais il y a deux dimensions pour ce discours-là. Oui. Ceux qui sont par exemple en sécurité à Bamako, qui ont les moyens de prendre leur famille en charge, qui peuvent voyager comme ils le veulent, ceux qui sont aussi à l'étranger et qui se sentent dans la peau de quelqu'un qui est libre, tranquille, en toute quiétude. Donc ce discours-là, peut-être c'est satisfaisant pour lui. Mais quelqu'un par exemple qui vient d'être délogé à cause de l'inondation, a vraiment besoin des programmes de SOS. Quelqu'un qui, par exemple, qui est en insécurité totale, comme ceux qui se trouvent au centre, aurait vraiment besoin d'une vraie force venant d'un peu partout le monde pour venir aider encore à sécuriser le Mali. Pour quelqu'un qui connaît un peu... comme on en a tout le temps parlé, je paraphrase ici le Premier ministre Sogel, qui dit avant d'accuser la France, il faut accuser nos dirigeants d'abord. Donc quelqu'un qui comprend ce genre de propos, sait que le discours d'une manière était d'une manière c'était le malvenu. Je n'étais pas la bienvenue en ce moment pour le Mali. Et surtout concernant certains voisins, vous voyez, comme l'Algérie. L'Algérie a beau jouer au double jeu, comme certains le pensent. Je pense que, je me rappelle, je crois que c'était, il y a eu un premier accrochage entre l'Algérie et le Mali, et j'ai écouté les discours de l'ambassadeur ces jours-là. Et vraiment, ça nous a donné beaucoup de souvenirs, et ça nous a remémoriser ce que nos pères fondateurs ont fait. Parce qu'on dit un grand homme, lui, il peut faire la paix. Okay. Mais un homme seul peut provoquer la guerre. Parce que provoquer la guerre, comme on l'a si bien dit, on dit qui veut la paix prépare la guerre. Okay. On n'a jamais dit que qui veut la paix doit faire la guerre. Okay. Voilà un peu la différence que j'ai vue dans ce discours.
D'accord.
Donc, faire la guerre avec tout le monde pour se sentir prêt. Faire la guerre avec tout le monde pour savoir qu'on est indépendant. Dire ce qu'on veut pour savoir qu'on a la liberté d'expression. Okay. Or, quand vous voyez un peu la turbine même qui est destinée à ce truc, c'est d'une manière pour faire la promotion de notre nation. Moi, je pense que ces genres de créneaux sont faits pour ça. Si c'est fait réellement pour ça, moi, je pense que en parlant des Mali comme une nation sortie des entrailles des empires, il y a beaucoup de personnes, par exemple, comme on a l'habitude de dire, qui ne connaissent même pas un des présidents du Mali. Mais quand vous lui parlez de Tombouctou, ils connaissent Tombouctou. Sur le plan de quoi? Sur le plan de tourisme. C'est des créneaux où on doit valoriser réellement les acquis du Mali.
D'accord. Vraiment. D'accord, valoriser les acquis du Mali. Parlons et toujours cette actualité des 11 ans, et les 11 politiques arrêtés qui sont présentement en prison. Vous, et qu'est-ce que vous faites au niveau de Nouvelle Espérance Djigui-Akoura pour la libération de vos camarades détenus en prison?
Et je commence par saluer tous les acteurs de l'Alliance Nouvelle Djigui-Akoura, à commencer par le président Ousmane Amiangino, qui en a même, à travers nos réunions, on a décidé, sous son leadership, une tournée qui a commencé à Bamako-Koura, la maison centrale d'arrêt de Bamako-Koura, et qui s'est terminée à Douila. Donc ça veut dire qu'on a fait le tour, et pas une fois, mais je peux dire deux fois. Ce n'est pas seulement les 11, mais on a eu l'opportunité de discuter avec d'autres acteurs qui ont eu des problèmes politiques. Donc c'est pour vous dire que, quand même, ce qui m'a vraiment plu, comparé aux autres détenus, j'ai senti, c'est certain, une réminiscence. J'ai senti ces d'autres qui ont été requinqués. Ils ont vu qu'à cause de l'arrestation, les gens ont senti qu'il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier en dehors de ceux qui sont actuellement à l'exil. Donc c'est juste pour les encourager et leur dire que ça pouvait être l'un d'entre nous. Et je peux dire que ce n'est même pas terminé, même si c'est notre volonté. Mais ce qui m'a vraiment aussi donné de l'amertume, c'est le rôle des acteurs politiques. Monsieur Attaher, quand vous imaginez que cette nation, comme on aime le dire, il y a 30 ans, a eu des grands hommes, des vrais acteurs politiques, qui n'avaient pas tous ces moyens, qui n'avaient pas tous ces prérogatives, ont su terrasser un géant de 23 ans, un général de surcroît, et qui ont perdu des gens. Et la majorité, pour ne pas dire les acteurs principaux, sont là. Okay. À commencer par le président Alpha Omar Konaré. Je salue ici pour son silence, parce qu'on dit le silence est d'or. Il n'est plus lieu sur la scène politique, mais je dis qu'il est toujours là. À travers qui? À travers la grande mère Adema, que j'appelle. J'appelle Adema la grande mère. Parce que tous ces partis-là qui ont eu à gérer notre pays durant ces 30 ans, on leur source déjà à l'ADEMA. Okay. Parce qu'après l'ADEMA, on parle du mouvement citoyen, du mouvement citoyen qui a amené Alpha Omar Konaré à la tête de l'État. Lui, comment dirais-je, a fait Amadou Toumani Touré à la tête de l'État.
Mouvement démocratique. Hein,
le mouvement de... Oui. Non, mouvement citoyen.
Moi,
c'est un... Oui, il était indépendant. Ah, était indépendant. C'est tout un mouvement qui l'a soutenu pour qu'il puisse être président. Je pense que la majorité de ses acteurs aussi étaient de l'ADEMA. Et quand on dit RPM, c'est encore un bébé de l'ADEMA. Donc, le protagoniste aussi, pareil. Qui était d'une manière l'opposition, dirigée par le fils Soumana Cissé. Donc, quand vous voyez que ces quelques-uns seulement ne sont plus là, mais ils ont beaucoup d'autres qui sont actuellement là. Et deux de ces quoi font partie de ces 11-là. Quand on parle de son excellence, Moussa Dikyo, quand on passe de Yaya Sangaré, le secrétaire général de l'ADEMA, et on n'a pas senti réellement une vraie préoccupation, un vrai soutien derrière les 11. C'est ce qui m'a vraiment attristé. Et je le dirais, je ne peux plus aussi accuser cette vieille classe. Je vais directement m'adresser à la nouvelle génération de la classe politique. Parce que dans tous ces partis, il y a des jeunes comme nous qui ont pu terrasser. Moi, j'ai passé par le M5. Bien vrai qu'à ce moment, je n'étais pas purement et simplement politique. Mais je suis allé dans le cadre soutenir d'autres. Et pour votre information, parmi les victimes, les martyrs du 10-11-12 juillet, il n'y a pas un qui dépasse les 40 ans. C'est tous des jeunes. Et ceux qui sont venus pour parachever, c'est encore des jeunes. Et s'il y a 11 leaders qui sont là actuellement, et la majorité aussi c'est des jeunes, à commencer par Mamadou Traoré de Léroi, l'autre Mamadou Traoré de l'Union, Moulay Aïdara et consorts. Ils sont des jeunes qui sont connus actuellement sur la scène politique, mais on ne voit pas les acteurs politiques vraiment qui sont là à bouger. Et quand je parle, j'accuse pas déjà ceux qui ont déjà l'épée Damoclès sur leur tête, comme nous. Bon, on peut dire que tout le monde ne peut pas être comme tout le monde, je comprends. Mais ceux qui sont déjà dans le pouvoir, qui sont dans le pouvoir, qui sont dans les instances de la transition, ils doivent savoir que c'est-à-dire la chèvre restera toujours chère. Okay. Ils sont des politiques, même s'ils sont actuellement sous le joug des militaires, ils doivent savoir que ces mêmes militaires appartiennent à tout le monde. Et lorsqu'ils vont laisser céder la place aux vrais acteurs, aux acteurs sinocubus, c'est-à-dire que ces jours-là, l'histoire va les rattraper.
Ok, on va suivre cette actualité de près et puis parlons maintenant de l'actualité de votre président Ousseyni Amion Guindo de Poulo et qui fait des sorties depuis un grand champ. Finalement, il est devenu un grand sédentaire, le Dogon Ousseyni Amion Guindo. Et Ousseyni Amion Guindo de Poulo, quelle est son actualité et puis est-ce que et il vous dit au niveau de la Nouvelle Espérance Djigakoura, de l'Alliance Nouvelle Espérance Djigakoura, qu'il sera candidat. Est-ce qu'il a des ambitions pour être président?
Bon,
c'est qu'il a été déjà candidat à la présidentielle.
Je pense que l'Alliance même prouve cela suffisamment. Okay. Pour qui connaît réellement le monsieur, doit savoir qu'il est trouvé actuellement au champ, c'est automatiquement il est dans son domaine. Comme l'État actuel n'a pas besoin de lui, mais lui, le Mali aura toujours besoin de lui. Parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de passer ses vacances, non pas à Paris ou bien chez Kaoudjim, chez Donald Trump ou Joe Biden. Lui, ses vacances, il les font toujours là où lui-même il a commencé son enfance. C'est-à-dire chez lui, il se sent bien là-bas. Donc, si Dieu lui a donné la chance aussi d'avoir aussi des champs et d'être un cultivateur, et comme un citoyen lambda, lui-même, il aime trop se mettre dans la peau. Ce n'est pas qu'il aime se mettre même dans la peau. Il se sent bien dans la peau d'un villageois. Et il aime ce terme-là. Okay. Vous comprenez? Comme la majorité des Maliens. Bon, je pense qu'actuellement, où il est serein quand il s'agit de sa personne. Okay. Mais au quotidien, il est toujours aux infos auprès de ses camarades sur l'étendue du territoire et même dans la diaspora. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui est prêt à diriger. Je me rappelle qu'il
Mais aujourd'hui, quelle est sa base électorale?
Sa base électorale, nous, par exemple, moi, je suis le président de l'association Empire Siège d'Or, qui a passé par le M5, l'appel du 20. Mais sur le plan politique, j'ai un leader qui est Ousseyni Amion Guindo. Je suis prêt à me battre pour qu'il soit le nouveau suprême de la magistrature, les nouveaux leaders du Mali qui peuvent vraiment faire avancer. Parce que chez le monsieur, j'ai trouvé quelque chose dont le pays a tout le temps réclamé, la paix. Quand je parle de la paix, c'est quelqu'un qui est comme le noyau. Quand je dis le noyau, il se trouve avec... il est le fruit de deux ethnies clés au Mali, c'est-à-dire les Peuls et les Dogons, actuellement qui font l'actualité du Mali. Quand on prend la crise actuelle du Mali, je pense que le pays Dogon est le point le plus touché, on peut le dire. Vous voyez? Donc, et c'est quelqu'un qui a fait son enfance à Gao. Okay. Et déjà, les liens qui entre vous et lui, concernant sa dogonité, si je peux le dire, entre guillemets. Oui. Donc, ça prouve que ce monsieur, et il a été adopté ensuite politiquement par le Sud, c'est-à-dire Sigasso.
C'est-à-dire vous voulez entendre que c'est un fils du terroir.
Vous comprenez. Mmh. Donc, mmh. ce Mali-là l'a adopté. Donc, la seule chose qu'il peut faire pour vraiment récompenser un peu le Mali, c'est de mettre la paix. C'est de retrouver obligatoirement la chance que lui, il a eue de donner ça à tous les fils du Mali. Donc, du sud, en passant par le centre, jusqu'au nord. Donc, moi, je pense que quand on prend la devise du Mali, un peuple, un but, une fois, le monsieur se retrouve dedans. Il est comme d'une manière, c'est cette tricolore qui est là. Okay. C'est comme cette devise, c'est que la devise de l'île.
Il symbolise à lui seul
la diversité du pays. La diversité du pays. Okay. Donc, vraiment, c'est pourquoi, quand vous me demandez s'il serait un candidat, moi, je dirais que même s'il ne veut pas, il va l'être. Même s'il ne veut pas, il va l'être. D'accord. Parce que nous, par exemple, ensuite, c'est un intermédiaire. Mm-hmm. Moi, je l'ai traité d'intermédiaire. Quand je dis intermédiaire, quand vous parlez de politique, les 30 ans de dictature, les 30 ans de démocratie, tant décrit actuellement, il est à terre dedans. Mais quand vous parlez de la nouvelle classe politique, il fait partie, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il n'a pas été indexé pour une malversation ou quoi que ce soit. Et de surcroît, il n'a pas été l'un des acteurs qui ont fait partie le président démocratique. Mais il a tout le temps dénoncé tout ce qu'il y a comme problème. Et il continue sur ce même chemin. Donc la cohérence chez lui, c'est obligé. C'est pourquoi j'ai dit, nous, la nouvelle classe politique, surtout les jeunes, nous ne devons plus attendre que les vieux nous appellent. Nous devons aller vers eux. C'est pourquoi on ne m'a pas appelé. J'ai quitté les M5. J'ai quitté le M5 Malikoura et j'étais perdu d'une manière, parce que si vous prenez le problème, on dit les gens soutiennent la transition, mais ils fustigent les acteurs qui ont amené la transition. Oui. Donc en même temps, cette même transition a été reconstituée par les mêmes acteurs qui étaient décriés aussi. Et ils sont acceptés parce qu'ils font partie des autorités. Mais lui, il ne fait pas partie. Non seulement il ne fait pas partie du M5, il ne fait pas partie aussi de ceux qui étaient dans l'ancien régime et qui se sont renversé la veste rapidement pour être dans...
Vous êtes en train de dire qu'il a su garder une certaine crédibilité politique, parce que à l'intérieur même du pouvoir Ibeka, il faisait des critiques souvent très acerbes contre la gouvernance du pays. C'est ça que vous êtes en train de dire?
Je vais même aller un peu plus. Il a démissionné en 2018 pour aller se présenter contre Ibeka. Donc c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui a une vision très claire.
Okay.
Il aime tellement ce mot-là et cette expression, j'ai envie d'écrire mon nom dans l'histoire. Il y a plusieurs manières d'écrire son nom dans l'histoire.
D'accord.
Mais lui,
pour vous, c'est clair que Hossein Amion Guindo a le profil idéal pour devenir le futur président du pays.
Pour être le nouveau président du pays. Ça, il n'y a aucun doute.
D'accord. Oui, parlons de l'imam Mahmoud Diko. On sait que vous appréciez beaucoup. L'imam Mahmoud Diko, aujourd'hui, il est en exil, en Algérie. Et quelle pensée pour l'imam Diko ce soir?
Je crois que avant de le nommer dignement et fièrement, je vais profiter de votre antenne pour une bonne nouvelle que j'ai entendue et j'aimerais que ça soit réalisé. Il y a l'ancien coordinateur de la CEMAS qui a eu son procès aujourd'hui. Et Dieu merci, il y a eu un donnement quand même favorable à notre côté.
Youssouf
Dava Diawara, et on compte le retrouver demain chez lui. Inch'Allah, que Dieu le veuille. Maintenant, en parlant du docteur, le très éclairé, le sage, le visionnaire Cheikh Imam Mahmoud Diko, pour qui je ne cesserai d'avoir du respect, pour qui je ne cesserai d'avoir de la reconnaissance. Pour ses prises de position, pour ses prises de parole, au moment où il faut, quand il faut et comme il le faut. Je pense que tous les Maliens, à commencer par ceux qui suivaient Ibeka, qui fustigent actuellement les dignes imams, savent et reconnaissent que sans lui, il n'y aurait pas cette transition. Donc ça, déjà, c'est une reconnaissance qui est totale. C'est pourquoi il est tout le temps critiqué. Maintenant, nous, le M5, qui avons eu l'opportunité de sortir pour le Mali, parce qu'il y avait des problèmes au Mali, ont déjà entendu ces discours quand il décriait les problèmes de l'article 39. Il a été, d'une manière, interpellé par les anciens en ce moment, interpellé par les acteurs qui s'intéressent de l'éducation du Mali. Il a été interpellé aussi quand il y a eu les tripatouillages de l'élection de nos législateurs, c'est-à-dire des députés. Donc c'est pour vous dire que ce monsieur, il est dans son rôle. Il connaît ce que c'est qu'un imam. Il sait que, contrairement par exemple à un président de la République, contrairement à un chef suprême de la magistrature, contrairement à un chef suprême de l'armée, l'imam doit aller au-delà de tout ça. Parce qu'il est la voix des sans voix. Tout le monde connaissait l'autorité et l'honneur que l'imam avait eu dans le temps de l'ancien régime. Cela ne l'a pas empêché de parler pour lui et pour le défunt président Kaïbeka. Il l'a dit et il a été clair. Le monsieur, il est cohérent. Le monsieur n'est pas là pour lui. Le monsieur, il ne se bat même pas pour sa génération. Sinon, il n'allait pas être là encore. Il se bat pour le Mali d'hier, d'aujourd'hui et de demain. D'accord. C'est pourquoi les valeurs cardinales du Mali, il les a tout le temps défendues. Et il continue au sacrifice et au péril de tous les dangers. C'est pourquoi il est actuellement.
Est-ce que vous pensez qu'il y aura une mesure dans le sens de son retour, voilà, pour apaiser les esprits et puis et pour une vraie réconciliation de tous les fils du pays, de toutes les filles du pays?
À travers, je vous dis, le jour que les propos tenus par ceux qui ont parachevé le pouvoir, c'est-à-dire les cinq colonels, les propos tenus par les acteurs du M5-RFP quand ils étaient au boulevard, le 5 juin, le 19 juin, le 10 juillet, avant d'être là-bas aussi, passer la nuit le 10 août, et maintenant être là-bas pour la dernière fois, le 21 août 2020. S'ils pensent et qu'ils reconnaissent que c'était avec conviction, avec dignité, avec honneur et avec patriotisme qu'ils étaient sortis, je pense que l'imam, je ne dirais pas qu'on doit discuter sur son retour. Il doit être forcé de revenir. Je dirais forcé de revenir. Pourquoi? Parce qu'il a cru à des gens qui se battaient pour le Mali. Donc il s'est mis devant eux, pas comme acteur principal, pas acteur sine qua non, mais comme conseiller. C'est pourquoi on l'a appelé l'autorité morale. L'autorité morale, ça veut tout dire. Ça veut dire, quand vous atteignez la moralité, ça veut dire que tout ce qui peut apaiser le problème pour qu'on puisse avoir des bons dénouements. Et ça aussi, il l'a prouvé. Il l'a prouvé le 19 juin. C'est lui qui a pris le micro quand les trois acteurs choisis par les M5 pour aller donner la lettre de démission. Et qu'ils ont été gazés sur la route. De leur retour, quand ils sont retournés seulement, le message a été passé. Les boulevards voulaient rencontrer Kouliba ce jour-là. Les boulevards voulaient rencontrer les domiciles de l'autre là, de IBK à Sébénikoro. Mais c'est les propos tenus encore ces jours-là par cet imam-là, par ces patriotes maliens, par ces religieux qui a préféré les vers, c'est-à-dire les mots du Saint-Coran, que les armes des hommes, que la violence. Il a dit à Essabali, à trois reprises, et je peux dire qu'en retournant à la maison, je ne faisais pas partie de ceux qui étaient partis pour la démission du PK. Mon association a intégré le MCU pour, pour qu'on la mise en place et la réalisation effectivement des propos tenus dans le dialogue national inclusif. Mais ces jours-là, en retournant, j'ai entendu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses d'hommes, ces jours-là, sont retournés avec la haine de l'imam. Que c'est l'imam, elle a à travailler pour Ibeka. Vous imaginez? Et c'est pourquoi jusqu'à présent, il y a des vrais acteurs qui sont avec Ibeka. Ils n'ont jamais pardonné ce monsieur-là. Mais s'ils savaient que ces jours-là, si l'imam n'était pas là et que les Maliens étaient sortis, bien vrai que l'armée était pour le président, si les Maliens mouraient ces jours-là, Ibeka allait être fusillé des années après, comme Moussa Traoré, Frère Moussa Traoré a eu la même chose. Comme les gens ont tendance à l'oublier, j'ai même entendu ça dans une des émissions de Rasbach, que Moussa, c'est lors du tribunal que Moussa a su qu'on a tué, on a tiré sur les gens en 91, que c'est lors du procès. Vous imaginez, ça veut dire qu'il était sur la colline, il n'était pas informé. C'est pourquoi on profite de l'occasion pour interpeller les autorités actuelles. Okay. Votre entourage, c'est votre premier ennemi.
Okay. D'accord. Oui, maintenant, parlons, dernière question sur... vous avez été du M5 RFP, mouvement du 5e Rassemblement des Forces Patriotiques. Hein, donc vous avez appelé de tous vos voeux cette transition. Vous avez vu les hommes à l'épreuve du pouvoir. Aujourd'hui, avec le recul, quel est votre regard sur l'action de ceux qui ont eu le pouvoir après?
Vraiment, si ce combat a été à refaire, je serai le premier encore sur la scène. Okay. Sur deux points à terre. Sur les points néfastes que subit le pays actuellement, il a fallu ça pour qu'on puisse être informé, être au courant, être conscient que le Mali était malade jusqu'à ce point. Okay. Ça, c'est le point néfaste, parce que je ne peux pas dire que mes compatriotes à travers le Mali sont dans des situations catastrophiques. Je me sens mal avec eux. Okay. Je suis dans la même situation qu'eux. Mais si on n'avait pas connu aussi cette maladie, on n'allait pas connaître qu'on avait des faux docteurs, on avait des bouchers à la place des médecins, on avait, par exemple, des dictateurs à la place des politiciens, et les politiciens aussi à la place des dictateurs. Aujourd'hui, on peut espérer voir ce genre de discours venant des militaires avant tout, et Ablaye Maïga. Qui fait ce discours élogieux pour certains et fustigé aussi pour d'autres. Mais quand même, c'est des discours tenus par un militaire. Donc, ça veut dire qu'ils ont des formations politiques. Maintenant, s'ils avaient mis ça aussi au devant, et comme l'a bien fait Moussa Senghor, moi, je pense qu'on ne serait pas dans ce problème de 4 ans ou de transition indéterminée ou indéfinie. Donc, j'aimerais maintenant les voir sur ce terrain politique-là, qui laisse les habits, qui viennent faire ce discours pareil au service de la nation, mais en étant en dehors du devoir. Parce qu'il y a le devoir et il y a le droit. Ils ont le droit de parler comme ils veulent, comme nous actuellement les hommes politiques, mais il ne faut pas qu'ils profitent réellement des autorités de l'État, parce qu'ils ne sont pas les seuls détenteurs de ce pouvoir-là. Nous sommes d'une manière les esclaves de ce peuple-là qui ne nous paye pas ses impôts, qui nous donne l'autorisation de choisir les gens qu'on veut pour nous entourer et maintenant nous mettre à leur service. Mais ne nous servons pas de ce peuple-là pour maintenant donner les images que nous pouvions avoir autrement.
Ok, oui, un peu. Ibrahim Ibrahima Diallo, dit Empereur, on est pratiquement à la fin de l'émission. Si vous avez un dernier rappel.
Bon, vraiment, c'est pour vous remercier encore une fois de plus, ATR, et de nous donner l'opportunité, au moins, de dire ce que nous avons sur le cœur et ce que nous avons compris. Et comme vous l'avez si bien dit, j'étais le coordinateur de la commune de Kalabankoro, 13 villages, je consorte 13 quartiers et 9 villages. Donc, c'est pour vous dire que quand on sortait pour ce combat-là, c'était pour un idéal. Okay. Et cet idéal, jusqu'à présent, n'a pas été atteint. Mais Dieu nous a donné la chance de retrouver, par exemple, l'Alliance Gigacroix, de faire la connaissance de l'appel du 20 février, des magistrats qui se battent pour la justice au Mali, des politiciens aussi qui refusent le pouvoir pour la démocratie, de certains qui acceptent même la prison étant là, et aussi de connaître d'autres maintenant qui sont dans tous les régimes, même si le diable venait à diriger, ils seront là à être les premiers Lucifer, les premiers fils du Satan. Donc vous voyez le problème. Donc si j'ai un appel à lancer, c'est envers cette jeunesse. Tous les acteurs qui soient je dirais pas, on dit qu'une transition n'a pas d'opposition, mais qu'ils soient pour ou contre l'actuelle transition, il faut que nous fassions actuellement le bon discernement et le choix primordial. Je pense que le président de la transition, Assimi l'a si bien dit. Il dit, s'il échoue, c'est la jeunesse qui échoue. Quelles sont les priorités d'un État? Les la jeunesse doit le savoir et ça doit commencer par l'éducation. Je pense que on doit se battre pour que ces genres de cas qui viennent d'arriver avec les reports brusques de la rentrée des scolaires, c'est comme si on était en train de renvoyer encore l'avenir des générations à venir diriger les pays comme nous, nous avons déjà eu la chance. Donc c'est l'appel que je lance premièrement. Maintenant, en secondo, je lance le dernier appel, c'est encore sur le terrain politique. Si l'État réellement est, le pays est appelé à être gouverné par des dirigeants politiques, il faut que les jeunes politiques fassent maintenant la part des choses. Donc on dit la politique, c'est seulement la gestion. Okay. Maintenant, il y a la bonne gestion et il y a la mauvaise gestion. Et pour avoir la bonne gestion et la mauvaise gestion, c'est le choix des acteurs qui le font. Okay. Décidons non seulement les hommes de principe, évitons les gens d'opportunisme et les gens de, surtout, de bonheur.
Okay. D'accord. Merci, Djibril Brahima Diallo, du APRR, vice-président de l'Alliance Nouvelle Espérance Djigia Koura, le parti, l'Alliance, dirigé par Ousseine Amion Guindou Di Poulou. Merci, c'est un plaisir de partager cet entretien avec vous. Merci. Oui. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Un clin d'œil pour Madame Diallo Nana Barka Aïdara, qui fait l'honneur de suivre cette émission et qui suit très souvent les émissions de Djoliba TV News. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris jeudi prochain. Toute liberté et toujours avec le même plaisir. Vous pouvez retrouver cette émission demain à 10h et le samedi à midi à 00. Au revoir. Liberté.